Banquise, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. http://fr.wikipedia.org Banquise. La banquise est une étendue de mer gelée. Il ne faut pas confondre cette glace de mer pérenne avec les calottes glaciaires de l'Islande ou les champs de glace de la Patagonie, ni avec les Inlandsi du Groenland et de l'Antarctique, qui sont constitués, quant à eux, de glace continentale, c'est-à-dire d'eau douce. La banquise se forme durant l'hiver polaire, lorsque la température de l'eau de mer descend en dessous de moins 1,8 degrés. Au cœur de l'hiver, l'épaisseur de glace peut atteindre 1,5 à 2 mètres, sans compter la neige qui s'y accumule. La flottabilité de la banquise est due à la différence de densité entre la glace et celle de l'eau liquide. Cette différence est d'environ 9%. La glace, moins dense, subit la poussée d'Archimède. Une partie de la banquise ne fond jamais, la banquise permanente, alors qu'une autre partie est saisonnière. La connaissance de l'étendue de la banquise est essentielle à la navigation dans les eaux concernées. Formation. À la fin de l'été, le froid polaire s'installe parfois brutalement, moins 40 degrés. La surface de l'océan se refroidit, mais en raison des mouvements de la mer, houle, vague, etc., la glace ne prend pas d'un seul coup. Quand la température de l'eau atteint moins 1,86 degrés, les premières paillettes de glace cristallisent. C'est d'abord le phrasyl ou phrasyl qui se forme. Ces cristaux de glace qui se créent dans l'eau en modifient la consistance. L'eau devient alors visqueuse. Les vents et les courants rassemblent le phrasyl en une couche d'aspect huileux et mat appelée la mélasse ou sorbet au Canada. Dans d'autres conditions, la juxtaposition de ces petits cristaux de glace forme une sorte de bouillie appelée slush. Si la mer est calme, la mélasse s'épaissit en une croûte plus épaisse et souple, le nilas, puis plus rigide de la banquise. Si la mer est agitée, le nilas s'agglomère en petites boules appelées chouga. Ensuite, les petits cristaux vont s'agréger jusqu'à former des plaques arrondies de glace dont les bords peuvent se soulever sous l'action du vent ou des vagues. C'est la glace en crêpe ou pancake. Celle-ci va se solidifier avec assez rapidement, mais tant qu'elle n'atteint que quelques centimètres d'épaisseur, elle reste fragile et les mouvements de l'eau peuvent la fissurer en plaques plus ou moins étendues. Les flots. Une fois la surface gelée, l'eau de mer se trouve isolée de l'air et le processus ralentit. La banquise s'épaissit alors lentement car par sa face inférieure, par adjonction de phrasyl ou de fins cristaux filiformes de glace columnaire, jusqu'à atteindre environ 2 mètres. Au-delà d'une certaine épaisseur, la glace ne constitue plus qu'un seul bloc couvrant une vaste étendue. C'est la banquise proprement dite. L'eau de mer se dessale en gelant, expulsion du sel vers les eaux plus profondes. L'eau de mer projetée par les vagues sur la banquise et qui gèle ensuite, ainsi que durant l'hiver, les précipitations neigeuses qui s'accumulent à sa surface augmentent encore l'épaisseur de la banquise. Les vents, les courants et les chocs avec les icebergs dérivants font bouger la banquise, la fracture, la comprime et créent des fissures, des canaux, des failles, des crêtes de compression, des chevauchements de plaques, etc. Débâcle. Durant la période 1979-2000, la banquise s'étendait sur 15,7 millions de kilomètres carrés. En moyenne, au maximum de la fin février, dont près de la moitié fondra durant l'été avant le réchauffement climatique. Au maximum de 2007, les satellites mesurèrent 14,7. Le maximum de 2011 est 14,6. Lorsqu'elle Lorsqu'elle redevient au mouvement de la mer, la banquise se fragmente, se brise, s'ouvre, se chevauche en grandes plaques, puis en morceaux de plus en plus petits. La banquise, ainsi morcelée, reçoit le nom de plaque. Ces plaques servent fréquemment aux mammifères marins, comme les morses, les phoques ou les otaries, pour se réchauffer et s'y reposer. La partie restante persistera 2, 3, 4 ans ou plus et son épaisseur atteindra alors 4 à 5 mètres. Pendant ce temps, cette croûte de glace traversera l'océan glacial emporté par le courant. C'est la dérive arctique. La banquise et les navires. Les navires pris dans la banquise qui se forment n'ont en général pas d'autre solution que de rester sur place et de préparer leur hivernage. Seul un navire conçu pour supporter la pression exercée par la glace sur ses flancs a de bonnes chances de résister. Un tel navire a une coque formant un angle très incliné avec l'eau. Lorsque la pression augmente sur la coque, au lieu de tenter d'y résister, elle s'élève mécaniquement. Certains navires sont spécialement conçus pour passer à travers une épaisseur de glace, inférieure généralement à 2 mètres. Ce sont les brise-glaces. Ils peuvent se frayer un chemin en brisant la glace sous leur passage et leur simple poussée. Ils servent également à ouvrir la voie à d'autres navires. La banquise et le réchauffement climatique en Arctique. Tous les modèles climatiques informatiques prédisent que le réchauffement climatique touchera plus fortement la région polaire arctique. Dans cette région, l'élévation de la température serait environ le double de l'augmentation moyenne à la surface de la planète. Cette évolution est confirmée sur le terrain par la NASA et du National Snow and Ice Data Center, NSIDC, qui révèle que l'étendue de la banquise du pôle Nord n'a jamais été aussi réduite depuis plus d'un siècle. En septembre 2005, la superficie de la banquise arctique était de 25% inférieure à celle qu'avait en moyenne dans les années 1980. En septembre 2006, l'extension de la banquise était proche du record de 2005, sans toutefois le battre. À la date du samedi 16 septembre 2007, il n'y avait plus que 4,13 millions de kilomètres carrés de glace restant dans l'Arctique, ce qui bat le record de 2005, 5,32 millions de kilomètres carrés, de plus de 1 million de kilomètres carrés. En général, les satellites mesurent la superficie de la banquise là où de la glace en concentration de 15% est plus présente. Ces données sont prises régulièrement par la NSIDC et la UIUC. Par contre, il n'y avait que 2,92 millions de kilomètres carrés de banquise avec une concentration de glace de 95% et plus, ce qui montre un affaiblissement de la glace pérenne. C'est de loin la plus petite superficie observée par les satellites. L'étendue de la fonte de la banquise est telle qu'un point de non-retour sera probablement atteint dans la décennie à venir. En effet, les eaux sombres non recouvertes de glace de l'océan Arctique absorbent bien davantage la lumière solaire que la très réfléchissante banquise qui joue le rôle de miroir, mesure par l'albédo. Ainsi, plus la banquise se réduit, plus l'océan Arctique se réchauffe rapidement, accélérant ainsi la fonte du reste de la banquise, et ainsi de suite. Ce cercle vicieux, en langage scientifique, une rétroaction positive pourrait conduire à une disparition totale de la banquise en août et septembre, au plus tard vers 2030. Une situation inédite depuis plus d'un million d'années. Certains scientifiques estiment que les conditions d'accélération du réchauffement pourraient devenir telles que la majorité de la surface estivale de la banquise arctique pourrait disparaître encore plus tôt, peut-être déjà aux alentours de 2025. En revanche, la plupart des modèles confirment que la diminution drastique de la taille de la banquise en été ne se retrouvera pas aussi nettement en hiver. En effet, la nuit polaire et ce qu'elle est induisant une reprise importante de la banquise en automne, pouvant illusoirement faire croire que les choses s'améliorent. Un risque supplémentaire d'accélération du processus de fonte est lié à la possible déstabilisation des gisements d'hydrate de méthane et du dégagement de CH4, imputable à la reprise de la fermentation bactérienne dans les toundras, dont les pergélisols dégèlent massivement depuis l'été 2005. Ce point de vue reste discuté et aucune donnée ne vient pour l'instant étayer cette hypothèse. Un autre risque concerne le rôle de la banquise dans la circulation thermohaline. Sa fonte entraîne une dilution des sels marins, rendant l'eau moins dense, ce qui diminue la plongée des eaux froides vers les fonds marins, avec pour conséquence climatique ralentissement des courants du Gulf Stream et du Kuroshivo et diminution de la capture du dioxyde de carbone, CO2. Si nous n'agissons pas immédiatement, l'Arctique va rapidement devenir méconnaissable, a affirmé Tanji Folkestad, spécialiste du changement climatique au WWF. Les ours polaires feront partie de l'histoire et nos petits-enfants n'en entendront parler que dans les livres. De retour de 2 ans d'expédition à bord de la goélette Tara, les membres de l'expédition ont annoncé fin octobre 2007 avoir constaté sur place plusieurs indices avérés des transformations en cours dans l'eau glaciale arctique. Le recul de la banquise, plus d'un million de kilomètres carrés perdus entre septembre 2005 et septembre 2007, la lisière de la glace ayant entre-temps reculé de 400 km. Une augmentation de la vitesse de la dérive transpolaire allant du détroit de Bering au détroit de Fram entre l'été 2006 et l'été 2007. Ce phénomène peut contribuer à l'accélération de diminution de la surface de la banquise. Une disparition progressive des glaces pluriannuelles au profit des glaces de l'année. La présence accentuée de plaques de fonte à la surface de la banquise. Elle couvre désormais 50% de sa surface en été, ainsi qu'une augmentation de la pluviosité entre Groenland et Spitzberg et Pôle Nord géographique. Début septembre 2008, les deux passages mythiques de l'Arctique, celui du Nord-Ouest et celui du Nord-Est, se sont ouverts. Cette année-là, la banquise a atteint sa deuxième plus faible extension, juste devant 2007 et loin de 2005. La perte de surface de la banquise serait actuellement de 500 000 km² par an, compte tenu de sa surface estivale. La banquise pourrait avoir complètement disparu en été d'ici quelques années à quelques dizaines d'années. Côté russe, seules les îles de la Terre du Nord restent prises par les glaces en 2007.